vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Civilization 7. On aura ensuite un point sur les top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news concernant les jeux PlayStation Plus. On aura ensuite une news technologie avec la police qui se retrouve avec un mandat défectueux et ne peut arrêter le meurtrier à cause de son utilisation de l'intelligence artificielle. Et on finira avec les quelques sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec la première partie de ce test sur Civilization 7. Donc c'est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour de type 4X qui est jouable en solo et en multijoueur. C'est le 7e opus de la série Civilization. Donc il a été développé par Firaxis Games et édité par 2K Games. Le jeu a été annoncé le 7 juin 2024 lors du Summer Game Fest et le gameplay a été dévoilé le 20 août de cette même année. Il est sorti le 11 février 2025 sur Microsoft Windows, macOS, Linux, Xbox Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Civilization 7 propose de construire le plus grand empire que le monde n'ait jamais connu en se mettant dans la peau d'un des plus grands dirigeants ayant marqué l'histoire. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 80 sur 100 sur Metacritic. Donc dans le doute où quelques néophytes m'écouteraient, remettons le contexte en place. La série Civilization permet de revivre l'histoire mondiale, de la découverte de la roue à la conquête spatiale, et ce depuis 34 ans. Mais être une légende du genre ne suffit pas, ce nouvel opus doit se moderniser pour rivaliser avec des titres comme Humankind et Consort, qui ont mis la barre bien haut ces dernières années. Pour cela, le studio Firaxis a un plan bien conçu qui consiste à conserver un tiers de Civilization 6 et de changer le reste. Et du changement, il y en a. Le premier changement majeur réside dans le rythme de jeu, divisé en trois âges, donc on a l'Antiquité, l'Exploration et l'Âge moderne. L'Antiquité est axée sur la création et le développement de votre empire, sur votre continent d'origine, essayant de vous faire une place face à vos adversaires. L'exploration permet aux joueurs d'enfin traverser les mers avec une course à la découverte de nouvelles terres et le commerce de ressources, ainsi que l'expansion religieuse. L'âge moderne est quant à lui centré sur l'industrialisation et la technologie, avec les gares et les aérodromes influençant l'économie et la politique. Donc cette ingénieuse division en trois âges aux axes distincts donne l'impression de jouer à trois jeux différents, mais le plus intéressant, c'est la liaison entre les âges. Chaque âge a des objectifs spécifiques en science, culture, économie et militarisme. Le joueur gagne des bonus en atteignant des paliers dans ces catégories et peut ainsi acquérir des points d'attribut pour l'âge suivant, afin de s'octroyer des bonus adéquats, en plus des bonus pour l'âge en cours. La stratégie est donc essentielle, d'autant qu'il n'est pas rare de changer ses priorités à la volée pour s'assurer de réussir tel ou tel objectif avant la fin d'un âge. Ce changement est sans doute le point essentiel de Civilization 7. Plutôt que de garder une ligne directrice pendant toute la partie, on scinde notre politique selon les échéances en cours, que ce soit la défense contre des assaillants fréquents, la volonté de s'étendre vers de nouveaux horizons ou encore la victoire finale. Si tout ne se passe pas comme prévu dans un axe, il est possible et même conseillé de modifier sa stratégie. Donc les parties sont bien plus dynamiques, notamment au niveau des interactions et réactions des autres leaders. De plus, les changements d'âge accentuent la compétition lors de certains moments spécifiques, notamment la course au nouveau territoire au début de l'âge de l'exploration, mais aussi la course à l'industrialisation et à la science pendant l'âge moderne. Non seulement cela se rapproche de la réalité de l'histoire, mais c'est diablement plus prenant que dans les précédents opus, où on gardait la même ligne directrice de bout en bout, à l'exception de quelques escarmouches surprises. Bien que le principe de division par âge soit déjà excitant, une autre nouveauté forte pour la série vient chambouler nos acquis. On peut maintenant choisir un leader et une civilisation de manière indépendante. Donc jouer Xerxès, chef des Mississippiens, eh bien oui, c'est possible. Les leaders et les civilisations ont chacun leur propre bonus, ce qui laisse aux joueurs la possibilité d'essayer de trouver la meilleure combinaison. Mais ce n'est pas tout. À chaque changement d'âge, on change de civilisation. On peut tout autant prendre les descendants naturels de la civilisation précédente ou celle liée à notre leader, mais aussi opter pour d'autres que l'on aura débloqués pendant l'âge précédent en remplissant des conditions spécifiques, comme trouver des ressources d'un certain type par exemple. Là encore, cela permet de faire des choix malins puisqu'on peut tout à fait s'adapter à notre situation actuelle et choisir une civilisation qui appuie nos forces ou qui comble nos déficits. C'est d'autant plus vrai que les points gagnés dans l'âge précédent, à distribuer dans des arbres d'attributs, permettent aussi de varier notre politique et nos axes de développement. Vous accusez un retard technologique, eh bien vous n'avez qu'à prendre une civilisation plus scientifique et prendre des bonus qui permettent de placer plus de spécialistes par exemple. Donc certes, ce n'est pas non plus la foire et on ne peut pas transformer une civilisation totalement pacifique en ogre de guerre du jour au lendemain, mais ce genre de coup de pouce permet de surprendre ses adversaires, ce qui rend les parties bien plus intéressantes sur le long terme au final. Voilà donc bien un élément qui manquait à civilisation. Toujours dans l'aspect des éléments de surprise, des événements narratifs permettent parfois d'avancer drastiquement dans nos objectifs en faisant les bons choix. Et si ces événements sont souvent positifs, ce n'est pas le cas d'un des nouveaux ajouts de Civilization 7, il s'agit des crises. Donc dans le dernier tiers des deux premiers âges, le monde entier entre en période de crise, aux effets variés. Non seulement ces crises peuvent créer des dommages dans notre empire si on n'est pas préparé, mais elles s'intensifient de plus en plus jusqu'à la fin de l'âge. La seule variation que l'on peut y apporter est de pouvoir choisir nos malus parmi plusieurs, ce qui permet encore une fois de s'adapter un peu. Dans l'idée, le concept n'est pas mauvais, mais s'il faut bien dire que ça manque un peu d'impact si on ne joue pas dans la difficulté la plus élevée. Cela dit, d'autres crises comme celle de la peste peuvent être bien plus dévastatrices. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Civilization 7, c'est Buganda Modern Civ Sim, et on viendra juste après pour la deuxième partie du test. Yeah. Donc c'était Buganda Modern Sif Sim, une musique extraite de l'OST du jeu Civilization 7. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Donc Civilization est une vieille licence, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas essayer d'attirer un nouveau public, surtout après un Civilization 6 très populaire sur Nintendo Switch. Ainsi, tout a été fait pour simplifier la vie du joueur et limiter le nombre de clics par tour, ce qui est une excellente chose. Fini les bâtisseurs, on choisit directement quelle case de nos colonies améliorer lorsque la population s'y agrandit. Les commandants d'armée font aussi leur apparition, permettant de réunir plusieurs unités en une seule. Donc non seulement cela facilite les déplacements, mais les commandants peuvent aussi donner des ordres spécifiques, ce qui améliore l'aspect stratégie militaire. Elles sont aussi les seules unités à gagner de l'expérience, débloquant de nouvelles capacités via un arbre de talent. Malheureusement, il reste quelques unités plus pénibles à gérer, notamment les missionnaires, qui demandent de convertir plusieurs cases d'une colonie pour la convertir à notre religion. Toutefois, dans l'ensemble, Civilization 7 nous simplifie la tâche au niveau de la micro-gestion d'unités, et c'est une bonne chose tant on parle d'éléments plus pénibles que stratégiques. La gestion des colonies est aussi témoin de nombreux changements dans Civilization 7. Hormis notre capitale, toutes les colonies créées sont d'abord des communes, qui ne peuvent rien produire, mais qui transforment leurs ressources de production en or. Ces communes croissent plus rapidement que les villes, et passé un certain cap, on peut tout à fait les spécialiser pour bénéficier de bonus adéquats. Par exemple, si une commune produit beaucoup de nourriture, elle peut devenir un stock pour les villes auxquelles elle est connectée, pour booster la population des cités primordiales. Il existe environ 6 à 7 spécialités différentes qui n'ont qu'une contrainte. Une fois choisies, elles ne peuvent plus être modifiées avant le prochain âge. Autre point, les barbares laissent place aux cités-états indépendantes. Amicales ou hostiles, elles peuvent être rasées, on peut en devenir le suzerain avec bonus à la clé, ou on peut même finir par les intégrer à notre empire. Tout cela demande une nouvelle ressource appelée influence, dont je vous parle juste après, mais ce qui est sûr, c'est que les décisions importantes ne manquent pas grâce à ce nouveau système. Construire beaucoup de villes ou centraliser toute la production sur seulement 2 ou 3 grosses cités et spécialiser des communes pour le reste, il existe des avantages et inconvénients dans tous les cas et c'est donc aux joueurs de faire les bons choix. Mais revenons donc sur l'influence, la nouvelle ressource de Civilization 7. Fini les congrès mondiaux, maintenant on peut jouer de notre diplomatie à tous les instants. Chaque action entreprise avec un autre leader ou une cité-état consomme de l'influence, ce qui nécessite d'être malin dans nos décisions. Non seulement en temps de paix, l'influence permet d'ouvrir des frontières, de s'allier ou d'organiser des festivals communs, mais en temps de guerre, l'influence peut servir à s'octroyer des bonus qui améliorent le bonheur de notre peuple, mis à dure épreuve quand les morts et les bombardements sont au seuil de sa porte. Il va falloir être fourbe et diplomate pour ne pas se retrouver à court au pire moment, d'autant que l'influence est une ressource plutôt rare si on n'en fait pas sa spécialité. Il me faut aussi parler d'un autre élément, l'aspect visuel. Donc le changement de design par rapport à l'aspect cartoon de Civilization 6 est une belle réussite. C'est certes moins coloré, mais c'est aussi et surtout bien plus détaillé. Toutefois, gros bémol sur l'interface qui manque parfois de clarté avec un manque d'informations à notre disposition quand on doit faire des choix importants. Relier des villes via des routes, des voies ferrées ou des ports peut être une tannée. Comprendre ce que font vraiment certaines compétences et bâtiments est presque impossible. Et les systèmes de quartier et de bonus d'adjacence seraient bien plus fun si on comprenait vraiment qui rapporte quoi. Surtout quand on doit remplacer un ancien bâtiment ou ajouter un spécialiste. Donc techniquement, ça ne devrait pas être compliqué à rectifier grâce à des mises à jour, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas optimal. Notons toutefois que le tutoriel est à la hauteur pour les éléments de base, surtout quand il faut expliquer toutes les nouveautés de cet opus. D'un autre côté, rien à redire sur la bande-son qui est de grand acabit, comme souvent pour la série. Tous les leaders parlent leur propre langue et les musiques changent selon notre civilisation, ce qui pousse un peu plus l'immersion. Enfin, je tiens à signaler un dernier point noir pour conclure ce test, la politique de DLC. Donc certes, Civilization 7 recevra du contenu gratuit de façon périodique après sa sortie, mais il reste dommage de voir que de nombreux leaders, civilisations et leurs merveilles associées ainsi que des merveilles naturelles sont déjà prévues en DLC et par pelleté. Le nombre de ces éléments est suffisant à la sortie du jeu, mais quelques leaders et peuples en plus n'auraient pas été de refus. D'un côté, le système de souvenirs qui permet de débloquer des bonus pour nos prochaines parties est intéressant, mais vu que le déblocage de ces bonus se fait en jouant certains leaders, une partie ne sera donc accessible que grâce au contenu payant. Reste à savoir comment le tout sera équilibré. Voilà, donc pour résumer les points forts, on a la séparation par âge qui amène des parties rythmées jusqu'au bout, le passage à l'âge de l'exploration et la ruée vers les nouveaux continents, le choix séparé des leaders et des civilisations qui est plus stratégique, on a beaucoup de façons de varier sa politique en cours de partie, moins de micromanagement d'unités, ce qui était pénible, le système de villes et communes qui est très intéressant, on a un bon tutoriel pour apprendre les bases, on a un jeu visuellement détaillé et le système de souvenirs, même si ça ne plaira pas à tout le monde. Pour les points faibles, on a une interface utilisateur pas vraiment optimale, en plus d'être froide et terne, un manque d'informations statistiques, notamment pour les villes, quelques unités qui restent désagréables à gérer, surtout les missionnaires pendant l'exploration, l'IA qui fait quelques choix douteux et les gros joueurs donc pourront facilement les duper, et la politique de DLC qui est déjà très présente à la sortie. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Civilization 7, c'est Siam Modern Civ Sim, et on reviendra juste après. Donc c'était la musique Siam Modern Civ Sim, une musique extraite de l'OST du jeu Civilization 7. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. A tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, on a en 5ème place Call of Duty Black Ops 6 sur PS5, un jeu d'Activision Blizzard. En 4ème place, pardon, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place, c'est Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, c'est Sniper Elite Resistance sur PS5, un jeu de Rébellion. Et en 1ère place, c'est Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place EA Sports FC 25. En 2ème place, c'est Call of Duty Black Ops 6. Et en 1ère place, Sniper Elite Resistance. On a exactement le même top 3 pour la Xbox Series. Pour la PS4, on a ensuite en 3ème place Call of Duty Black Ops 6, l'édition Cross Gen Bundle. En 2ème place, c'est Sniper Elite Resistance. Et en 1ère place, EA Sports FC 25. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Red Dead Redemption 2. En 2ème place, c'est Grand Theft Auto 5, l'édition Premium. Et en 1ère place, c'est Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place EA Sports FC 24. En 2ème place, c'est Football Manager 2024. Et en 1ère place, Farming Simulator 25. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc si vous êtes abonné au PlayStation Plus Extra ou Premium, alors vous êtes concerné par ce qui suit. Sony vient en effet de dévoiler les prochains arrivants du catalogue pour le mois de février, et le programme est solide. Donc avant toute chose, je rappelle comment se compose le PlayStation Plus, histoire que vous y voyez un petit peu plus clair. On a la formule PS Plus Essentielle, qui est donc la première formule et la moins chère. Celle-ci permet de jouer en ligne, de stocker ses sauvegardes sur un serveur et d'accéder à des promotions exclusives sur le PS Store. Surtout, les abonnés récupèrent une poignée de jeux chaque mois qu'ils peuvent garder à tout jamais dans leur bibliothèque. Pour y jouer, il faut en revanche rester abonné au PS Plus. On a ensuite la formule PS Plus Extra, donc elle comprend les avantages de la formule précédente, mais elle donne en plus accès à tout un catalogue de jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 qui est renouvelé chaque mois. Et enfin, on a la formule PS Plus Premium qui est la plus onéreuse, donc elle comprend tout ce que proposent les deux autres formules, mais en plus, les abonnés ont droit à des jeux PS1, PS2, PS3, PSP dans le catalogue, ainsi qu'à des jeux PSVR 2. De plus, ils peuvent essayer une sélection de jeux pendant 2 heures pour se faire un avis avant de passer à l'achat. Enfin, ils ont aussi la possibilité de jouer aux jeux PS5 en streaming, en 4K ou 60 FPS. Donc, dès le mardi 18 février prochain, les abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront jouer librement à 7 nouveaux jeux. On compte notamment le tout dernier Star Wars Jedi, le récent Top Spin qui a ressuscité la franchise, ou encore Lost Records, le tout nouveau de Dontnod, le studio derrière Life is Strange, qui sera donc disponible Day One dans le catalogue. Si vous êtes abonné au PS Plus Premium, alors vous aurez également droit à 2 jeux old school qui sont Patapon 3 et Dropship. Aussi, Sony a annoncé que les 3 premiers jeux Armored Core issus de la PlayStation originale arriveront quant à eux dans le courant de l'année sur le PlayStation Plus Premium. On passe maintenant à une news technologie. Donc récemment, la police de Cleveland dans l'Ohio a utilisé l'intelligence artificielle pour justifier un mandat de perquisition. Toutefois, cette dernière s'est retournée contre les forces de l'ordre qui n'ont pas pu condamner le meurtrier présumé. Donc, comme l'a rapporté Cleveland.com, les policiers de Cleveland enquêtaient sur le meurtre de Blake Story, un natif de Cleveland âgé de 33 ans qui était survenu en février 2024. Ils ont envoyé des images de sécurité d'un suspect au Northeast Ohio Regional Fusion Center, un centre de commandement pour la collecte de renseignements et de données partagées par les agences locales, étatiques et fédérales, pour les intégrer à son programme d'intelligence artificielle. L'un des outils utilisés par le centre était Clearview, la plateforme controversée de reconnaissance faciale, qui a déjà fait l'objet de recours fédéraux. Elle a pu identifier un homme prénommé Quayon Tolbert. Donc la police locale a rapidement obtenu un mandat d'arrêt contre sa petite amie et elle aurait recueilli des preuves supplémentaires pour monter un dossier menant à son arrestation et à son procès pour meurtre. Toutefois, plutôt que de construire un dossier sur la base d'ADN ou de témoignages, la police a essentiellement utilisé Clearview pour faire correspondre les images de vidéosurveillance du meurtre à celle d'un homme au hasard qui, selon elle, correspondait à la description du suspect. Depuis lors, un juge a supprimé les preuves de l'intelligence artificielle et toutes les preuves fondées sur ce mandat défectueux, bien que les procureurs locaux aient fait appel de la décision. Voilà, on va pouvoir maintenant finir l'émission avec les quelques petites sorties de la semaine. On aura deux sorties mardi 18 février avec Lost Records Bloom and Rage qui sortira donc sur PC, PS5 et Xbox Series et comme je l'ai dit tout à l'heure qui sera disponible Day One sur le PS Plus. Et on aura également Avowed qui sera disponible sur PC et Xbox Series. La dernière sortie de la semaine, ça sera pour jeudi 20 février avec Stories from Sol, The Gun Dog, qui sera disponible sur PC, PS5 et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour une nouvelle émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouvera lundi prochain de 21h à 22h pour notre émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfet.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.